C'est parti pour les grandes gueules. Bienvenue à tous. Nous sommes ensemble pendant 3 heures. Nous allons débattre de l'actualité comme tous les jours en direct et avec notre liberté, celle qui fait le succès des grandes gueules depuis plus de 20 ans. RMC pour la radio, RMC Story pour la télé. Autour de la table aujourd'hui, Emmanuel Devilliers, l'entrepreneur. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous, spécialement à tous les fidèles de l'émission.
Abel Boyer, l'éducateur. Bonjour Abel.
Salut, je prends quelques secondes pour saluer tout le staff et les jeunes joueurs du centre de formation d'Amiens, auprès de qui je suis intervenu hier après-midi.
Et puis Maître Pégan, Sandrine Pégan, notre avocate. Bonjour.
Bonjour à tous. Ce petit rafraîchissement capillaire vous va très bien.
Oui, bah écoute, de temps en temps, il faut aller chez le coiffeur. Je voudrais faire remarquer aux garçons que quand Sandrine Pégan passe un week-end à l'étranger, à Rome, en Italie, je balance.
Je t'en prie.
Eh bien, elle revient avec une petite attention. Donc, une petite attention, une friandise.
Oui.
Bacci latte.
Oui.
Ce sont des bonbons au chocolat,
bisous,
caramel.
Je veux dire bisous en italien.
Merci.
Non, tu goûteras, je ne dis rien, ce sera la surprise.
Voilà, elle nous a ramené ça à toute l'équipe. Hein.
Mm-hmm.
Alors qu'Emmanuel Devilliers, lui, quand il va à Varsovie, rien.
Quel radin, celui-là.
Prends exemple, s'il te plaît, prends exemple. Voilà. Il faut.
Marseille bébé, on arrive ?
Yes.
Et oui, jeudi, avec notamment Abel Boyi, les GG débarquent à Marseille. Première étape de notre tournée municipale. Les grandes gueules dans vos villes. Donc Marseille, nous serons place de la Bourse au 9 rue de la Canebière. C'est ouvert au public. Vous pouvez vous inscrire encore. Il y a une adresse mail. Vous envoyez un petit mot à public@rmc.fr, public@rmc.fr pour assister à l'émission. Les places, bien sûr, sont limitées. Donc passez à cette adresse mail pour venir applaudir les grandes gueules jeudi à partir de 9h à Marseille. Et puis notez également aujourd'hui ce rendez-vous. Manuel Bompard sera face aux grandes gueules, le coordinateur de la France Insoumise, à partir de 11h face au GG, au moment où la France Insoumise est dans la nasse, si j'ose dire, avec l'agression mortelle du jeune Quentin. Bien justement, parlons-en.
L'enquête criminelle des chefs d'homicide volontaire et une enquête délictuelle pour violence aggravée par 3 circonstances. Les 3 circonstances, c'est réunion, masqué et porteur d'armes. Et du chef d'association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni de 5 ans d'emprisonnement a été confié au service de police de Lyon de la division criminelle territoriale.
Voilà, ça c'est le procureur de Lyon qui a donc ouvert une enquête pour meurtre après la mort de Quentin, ce jeune militant ultra-droite de 23 ans qui a été roué de coups et laissé pour mort. Quentin est donc mort et il y a des hommes ou des femmes en liberté qui n'ont toujours pas été interpellés. Mais visiblement l'étau se resserre puisque désormais les enquêteurs cherchent 6 suspects. Ils auraient été, selon certains médias, identifiés. Pour la plupart membres de la Jeune Garde, ce mouvement antifa ultra-gauche proche d'LFI, et fichés S, donc c'est-à-dire des jeunes qui sont connus des services de police et suivis par le renseignement. Alors pour l'instant, pas d'interpellation. D'ailleurs, on peut s'étonner, 5 jours après les faits. Peut-être qu'elles arriveront dans la journée. En tout cas, les suspects ont été identifiés. Donc, est-ce que, selon vous, l'étau se resserre sur l'ultra-gauche ? Question posée dans les grandes gueules, Emmanuel Devilliers.
Oui, indiscutablement, c'est un fait divers extrêmement grave qui vient à un moment très pessimiste, très mauvais pour la France Insoumise, qui était déjà un peu entre deux eaux politiquement, avec un leader, Jean-Luc Mélenchon, qui est de plus en plus contesté, qui n'a plus du tout les mêmes intentions de vote que lors des derniers scrutins présidentiels. Donc c'est un peu un effet révélateur. Du soubassement de la France Insoumise, qui était sous couvert d'être un mouvement faussement généreux d'extrême gauche, est un mouvement en fait qui fait pression sur la population française, par un certain nombre de thèmes, par un certain nombre d'alibis électoraux. Et les moments qui vont venir seront sombres pour la France Insoumise et on peut s'en féliciter.
Maître Pégan, donc c'est une enquête pour meurtre maintenant qui a été ouverte.
Une enquête pour meurtre et une autre enquête pour violence aggravée. Donc là, il y a une enquête criminelle et une enquête délictuelle. Donc là, c'est une enquête de flagrance. L'enquête de flagrance, je vais faire un petit peu de droit, c'est 8 jours maximum. C'est-à-dire qu'ensuite de quoi, il devra obligatoirement ouvrir une information judiciaire. Éventuellement, il peut prolonger d'une durée de 8 jours. Et donc là, après, on passera sous la houlette d'un juge d'instruction avec d'autres prérogatives.
Mais ce que je comprends pas, c'est qu'à la fois, on apprend que les suspects auraient été identifiés, parce qu'en plus, ils ont été filmés, s'ils appartiennent à un mouvement qui est très suivi par les services de renseignement.
Alors, filmés, mais cagoulés, hein.
Oui, mais ouais, la Jeune Garde, notamment, est très suivie par le service de renseignement. D'ailleurs, c'est un mouvement qui a été dissous par le ministre de l'Intérieur.
Et toujours en recours administratif.
Son cofondateur, Raphaël Arnaud, qui est député LFI et fiché S, donc tout le monde est bien connu, suivi. Pourquoi, connaissant les suspects, on les interpelle pas tout de suite?
Tout simplement parce que pendant les 48 heures de garde à vue, il faut bien qu'on les cuisine. Et donc, si simplement tu les as identifiés, mais qu'il n'y a pas d'autres éléments, parce que donc là, en fait, c'est quand même une enquête de flagrance qui est ouverte pour homicide volontaire.
Donc, il faut avec rassembler une tous les éléments nécessaires avant de mettre ces gens en garde à vue.
Pour que pendant 48 heures, tu puisses avoir le temps de les cuisiner, de les passer à table, si tu l'expression. Parce que nous, en tant qu'avocat, après, en tant qu'avocat de la défense, on fait le nécessaire auprès du procureur en disant, bah, écoutez, vous n'avez aucun élément à charge, ça ne sert à rien de...
Et la garde à vue, c'est seulement 2 jours. Et
là, oui, parce que là, on est en matière criminelle. Ça pourrait basculer éventuellement sur le plan terrorisme, mais bon, là, il faudrait vraiment prouver, en tout cas, mettre en avant le fait qu'il y ait l'instigation d'une terreur pour le peuple. On n'en est pas là. Donc là, c'est 48 heures maximum au niveau de la garde à vue.
Abel Boyi.
Moi, j'espère qu'on va pas se retrouver face à une situation qui manifeste une grande hypocrisie. Il faut savoir que Lyon et les alentours est le théâtre depuis de nombreuses années d'affrontements entre l'ultra-gauche et des militants tarés, mais aussi l'ultra-droite et des militants tout aussi tarés de leur côté. Donc il faut tout à fait rappeler que s'il est inadmissible que ce jeune soit mort dans ces conditions, surtout que à la base, les manifestantes, c'était juste 7 femmes avec une banderole. Donc voilà, faut quand même rappeler les faits. Voilà.
Maintenant, il y avait des garçons aussi, puisqu'il y avait une quinzaine de garçons venus en renfort, dont Quentin. Il n'y avait pas que des femmes, il y avait effectivement des femmes
pour assurer
qui
la
ont
sécurité.
Été agressées. D'ailleurs, l'une d'entre elles a été étranglée et a eu des blessures. L'autre a été jetée au sol. Et il y avait des garçons un peu plus loin qui ne sont pas intervenus à ce moment-là. Une bande dont faisait partie Quentin.
Exactement. Mais apparemment, Némésis n'aurait pas déclaré sa manifestation. Il y a aussi ça là qui est un petit peu en ce moment.
Oui, mais peu importe. On a un jeune qui est mort et ce qui est terrible, c'est qu'on ne combat pas, que ce soit l'ultra-droite, l'ultra-gauche, par la violence. On le combat sur le terrain des idées. Moi, quand je parle d'hypocrisie, j'espère que l'on va découvrir, qu'on ne va pas découvrir que parmi ces jeunes d'ultra-gauche, il y ait des enfants de notables et que c'est pour ça que l'affaire coince un petit peu. L'autre chose que j'aimerais dire aussi, c'est le deux poids.
C'est vrai que souvent, au sein de ces mouvements ultra-gauche, c'est plutôt des petits bourgeois.
Oui, exactement.
C'est rarement des enfants d'ouvriers, des enfants des quartiers populaires, c'est souvent les petits bourgeois, notamment chez NPA, par exemple, au nouveau parti anticapitaliste ou effectivement à la Jeune Garde.
Bien entendu, qui sont souvent bien organisés et qui ont les financements pour. Mais moi, ce que j'espère, comme je le rappelais, Lyon est le théâtre d'affrontements réguliers entre l'ultra-droite et l'ultra-gauche, et je voudrais interpeller l'État. L'ultra-gauche, de toute façon, on sait que c'est eux sur le coup, donc c'est un faux suspense. Mais moi, j'aimerais rappeler que quand même, au mois de janvier, il y a Ismaël Ahali qui s'est fait tuer, qui est un jeune qui avait la vingtaine, qui a été retrouvé dans un étang proche de Lyon et qui a été tué par l'ultra-droite, et ça n'a pas fait le même retentissement médiatique en fait. Donc l'État, pour moi, est une nouvelle fois défaillant parce que ce sont des affrontements qui sont réguliers, qui ne sont pas nouveaux, avec des blessures graves, avec des hospitalisations importantes, des ITT, etc. Et on attend toujours qu'il y ait un mort, 2 morts, 3 morts pour pouvoir surréagir. Donc moi j'espère qu'on va pouvoir mettre vraiment la lumière sur tous ces affrontements qui se passent sur Lyon et ailleurs afin qu'il n'y ait plus de drames comme celui-là.
Nous sommes avec Gérald qui nous appelle de Montpellier dans l'Hérault. Bonjour Gérald.
Bonjour à tous.
Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. On s'interrogeait sur le fait que 5 jours après les faits, il n'y a pas eu d'interpellation pour le moment.
Évidemment, c'est inadmissible. Je trouve qu'il y a un deux poids deux mesures par rapport à ça. Je me demande, en fait, je me pose la question pourquoi en fait est-ce si long pour retrouver en fait des personnes de la Jeune Garde de l'ultra gauche, et c'est beaucoup plus facile de retrouver en fait des personnes qui sont de l'ultra droite et qui font quelques méfaits et qui sont très rares par rapport à la Jeune Garde. Et donc ils ont le temps, évidemment, de pouvoir se concorder ensemble pour trouver un bon alibi, de squeezer un petit peu aussi les questions qui vont être posées, d'effacer toutes les preuves qui peuvent être liées à eux directement ou indirectement. C'est complètement dantesque de voir ça. Et je comprends pas, encore une fois, pourquoi cette milice de la Jeune Garde qui a quand même beaucoup de preuves contre elle sur les méfaits qu'elle a pu faire auparavant, qu'elle n'ait pas été encore dissoute par Gérald Darmanin.
Justement, elle a été dissoute par Gérald Darmanin, mais il y a eu un recours devant
Bruno Retailleau.
Oui, voilà. Mais
Bruno Retailleau, d'ailleurs. C'est Bruno Retailleau qui était mis à l'intérieur. Le Conseil d'État n'a pas toujours statué. Alors, le Conseil d'État met du temps parce que je crois que le recours a été déposé en juin. Nous sommes donc en février. Alors, quand même, là, qu'est-ce qu'il fout au Conseil d'État? On peut se poser la question quand même.
Encore une fois, ce deux poids, deux mesures, ça aurait été quand il y a eu la jeunesse identitaire qui avait pour rôle juste de manifester contre l'immigration en France. Ça a mis beaucoup moins de temps pour pouvoir dissoudre ce type de groupuscule là que en fait le groupuscule d'ultra-gauche.
Mais donc, bon, après vous avez dissous un groupuscule.
Il y en a d'autres qui naissent à côté.
Voilà, il y en a d'autres qui naissent. Et puis qu'est-ce qui empêche ces gens de se retrouver? Est-ce que c'est vraiment contrôlé? La dissolution malheureusement n'empêche pas le mouvement parfois de continuer sous d'autres formes, sous d'autres noms.
Eh ouais, mais je trouve que la jeune garde, elle, fait état de comment on appelle ça, le fer de lance aussi pour pas mal de manifestations, pour casser par exemple une manifestation des Gilets jaunes, une manifestation de l'ultra-droite, etc., ou même les manifestations de droite classiques. Ils sont là en fait pour servir un petit peu l'État à casser ce tout type de mouvement. Bon, on le voit quand il y a des policiers qui n'ont pas d'ordre de pouvoir rentrer dans le tas, quand ils cassent les vitrines ou quoi que ce soit, c'est quand même assez intriguant, j'ai envie de dire. Donc du coup, pourquoi sont-ils protégés? Qui sont ces gens-là? Est-ce que c'est des jeunes qui appartiennent à des personnes notables en fait dans notre pays ou quoi que ce soit? Ça vraiment, il faudrait le déterminer.
Emmanuel, moi je crois, Gérald, tout en étant d'accord avec ce que vous venez de dire, que c'est aussi pour élargir l'ampleur des interpellations qui vont avoir lieu, qui vont être beaucoup plus larges que les simples protagonistes criminels qui vont être condamnés dans le futur. Mais il y a aussi une question de mots, c'est-à-dire qu'on a toléré depuis trop longtemps la notion d'antifa. Antifa, ça n'existe pas, parce que le fascisme n'est pas à nos portes. Il n'y a pas de fascistes. Moi, j'ai vu récemment un défilé de bruits de bottes, des vrais bruits de bottes. C'est pas ça que contre quoi ils combattent, ces antifas.
Par exemple,
les troupes polonaises, quand elles défilent, sont effectivement comme pendant la Deuxième Guerre mondiale ou du temps du communisme, c'est-à-dire que les bottes sont quasiment cloutées. Il y a vraiment un bruit quand vous avez une troupe qui se déplace. C'est vraiment l'image d'Épinal du fascisme, s'il s'agit d'une troupe militaire conventionnelle. Les antifas, c'est totalement bidon. C'est totalement bidon. En fait, ce sont eux les fascistes. Ils le prouvent puisque ils utilisent la violence. On défend des idées masquées. On frappe un homme à terre à plusieurs dans la tête. C'est ça, défendre des idées politiques, être antifa?
Mais aujourd'hui, en plus, Emmanuel, c'est que frapper un adversaire devient un acte militant. C'est ça qui est juste incroyable dans la tête
et
maintenant.
Et de tous les partis, en réalité.
C'est ça. Je veux dire, tu ne peux même plus débattre de tes idées. C'est-à-dire qu'il faut frapper l'adversaire, il faut le tuer. Donc là, on arrivait à un lynchage pareil avec la mort de ce Quentin.
La différence, mon cher Abel, c'est que là, il y a une connexion directe avec un parti politique représenté à l'Assemblée nationale, qui est la France Insoumise, puisque ce sont des militants qui étaient dans l'étiage d'une conférence, d'une députée européenne de la France Insoumise, quand il y a quelques barjots complètement illuminés, mais il y en a pas beaucoup, crois-moi, en France et en Navarre, qui se revendiquent d'être de droite. C'est totalement faux. Le nazisme était un parti national socialiste. Le nazisme est venu de la gauche.
Des mouvements d'ultra-droite, ça existe aussi.
Emmanuel, l'ultra-droite, c'est 11 morts depuis 2022 et 19 blessés. D'accord?
C'est une statistique que tu balances. Le nazisme était un parti socialiste.
Mais pourquoi tu parles du nazisme? Là, tu parles dans tous les sens.
Parce que tu dis ultra-droite, tu fais référence au nazisme, au fascisme.
Le nazisme, est-ce que j'ai cité le mot
Mussolini
nazisme
lui-même en Italie, mais là, était d'obédience socialiste.
Il parle pas du nazisme.
Droite
aujourd'hui, il parle pas du nazisme.
Ismaël Ali, qui a été tué en mois de janvier, tu en as parlé, il a été retrouvé dans un étang et la justice a statué que c'était un crime raciste parce qu'il était arabe. Est-ce que tu en as parlé? Moi, je dénonce.
Je finis.
Mais toi, t'es un gros manipulateur parce que t'interprètes mal tout ce que je dis. Est-ce que j'ai parlé de ça?
Moi,
je parle du fait qu'il faut condamner toutes les violences, aussi bien celles de l'ultra-gauche et celles de... Mais c'est toi qui es démagogue.
C'est une démagogie tellement facile.
Tu veux qu'on mette encore la Marseillaise derrière toi. Moi, je t'ai laissé finir de parler. Toi, tu choisis ton camp. Moi, je dénonce toutes les violences, d'où qu'elles viennent. Donc oui, effectivement, l'ultra-gauche, elle doit rendre des comptes. Sur ce point-là, je suis d'accord avec toi. Mais il ne faut pas dire uniquement l'ultra-gauche et oublier ce qui se passe au niveau de l'ultra-droite. Et la dernière chose...
Ponce Pilate.
Et la dernière chose. Oui, bien sûr, Ponce Pilate, c'est toi le Ponce Pilate. Oui, et la dernière chose.
Là, il y a un mort et pour l'instant, il y a des gens qui ne sont pas arrêtés. C'est ça le sujet. C'est pas de faire référence à des statistiques bidons que tu sors de je ne sais où.
Ben non, mais tu peux les vérifier. Tu peux les vérifier. C'est toi qui ne connais pas le sujet. Le sujet, je le connais un peu mieux que toi parce que moi, j'interviens beaucoup plus sur le terrain. Et la dernière chose. Et la dernière chose, c'est que je rejoins Gérald sur pourquoi est-ce que ça met du temps. Et je pense que l'on peut découvrir que parmi ces militants d'ultra-gauche, il y a des enfants de notables qui essaient d'étouffer l'affaire.
Bien sûr que non, mais comment tu peux raconter une baliverne pareille?
Bien sûr que c'est la réalité. Mais bien
tu crois que la République, la justice française, c'est un coup de fil d'un mec qui connaît quelqu'un?
Ah bon, ça n'existe pas. Là, t'as décidé de jouer au clown ce matin. Ça n'existe pas.
Si tu étais aussi expert en justice,
je
saurais que rencontrer un juge dans une affaire judiciaire et essayer de lui parler d'un dossier. Il n'y a rien de pire, c'est l'échec assuré.
Non mais là, on n'est pas au niveau du juge, là, on est au niveau juste des procureurs et des policiers.
Là,
c'est que l'enquête de flagrance, hein. On n'est pas devant le juge d'instruction.
Abel fait état de relations qui pourraient permettre d'étouffer l'affaire.
Mais évidemment, ça n'existe pas. Bien entendu, ça n'existe pas.
On n'est pas au café du commerce.
La justice, elle est la même pour tout le monde. D'accord, il n'y a pas de problème. Tu vis dans le monde des oui-oui.
On va remercier Gérald d'être intervenu au 32-16. Dans un instant, Antoine. Et cette question, quelles conséquences pour la France insoumise, puisqu'il est avéré que la jeune garde a été mise en avant par Jean-Luc Mélenchon, qui avait choisi ce mouvement notamment pour assurer la sécurité. Il était, souvenez-vous, Jean-Luc Mélenchon allé au camp d'été de la jeune garde, c'était en 2023, et il investit Raphaël Arnaud, l'un des cofondateurs de la jeune garde, qui est devenu député du Vaucluse. Donc est-ce que les temps sont mauvais pour la France insoumise? On est, je vous le rappelle, à 4 semaines d'un premier tour des élections municipales. À tout de suite sur RMC, RMC Story avec vous.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story avec Maître Sandrine Pégan, notre avocate, Emmanuel Devilliers, l'entrepreneur, et Abel Boyer, l'éducateur. Nous sommes sur les conséquences de la mort de ce jeune militant de l'ultra-droite, Quentin de Ranque, qui a été tué par au moins 6 personnes, roué de coups, lynché. L'enquête progresse puisqu'on nous dit que les suspects ont été identifiés. Selon certains médias, ils seraient pour la plupart membres de la jeune garde, fichés S. La jeune garde, c'est ce mouvement qui s'est rapproché de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon, c'était son choix, hein, puisque l'été 2023, Jean-Luc Mélenchon prend la décision d'aller au camp d'été de la jeune garde, ce groupuscule qui se qualifie d'autodéfense. Bon, ce sont eux, on voit que c'est plus vraiment de l'autodéfense, c'est de l'attaque, puisque là, ils ont participé à un lynchage. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a été plus loin, puisqu'il a fait investir Raphaël Arnaud, l'un de ses fondateurs, qui est devenu député en 2024, député du Vaucluse LFI, qui avait été pourtant condamné pour violence, condamnation d'ailleurs définitive, parce que je crois qu'il n'a pas fait appel. Bref, est-ce que ça sent mauvais pour la France insoumise, qui aurait dû sans doute être plus prudente avec ses liens tissés avec la jeune garde?
Pour moi, ça sent forcément mauvais, parce que Jean-Luc Mélenchon, qui aspire à être président de la République, doit rentrer dans une communication où il s'adresse à tous les Français et cesser de ne s'adresser qu'à ses militants. Donc il doit se désolidariser, parce que déjà LFI a une image qui est très écornée par rapport à la violence politique, et il est temps de rentrer dans une communication où ils ont besoin de rassurer. Peut-être qu'ils trouveront ça injuste, mais ils ont besoin de rassurer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne les comprennent plus. Déjà, ils ont perdu le milieu ouvrier, ils sont en train de perdre une partie des quartiers populaires, contrairement à ce qu'ils croient. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de dire « Attention, LFI nous utilise et tout ». Donc moi, j'attends une communication claire, pas qu'ils viennent se mettre à genoux et demander pardon à tout le monde, mais qu'ils disent
quand
que
la France insoumise, à être président de la République,
on s'adresse à tous les Français.
On ne peut pas faire ça.
On ne peut pas faire ça, et on s'adresse à tous les Français et pas qu'à ses militants.
Maître Pégan.
Mais carrément, LFI, Mélenchon disait que la jeune garde, c'était un allié.
Oui.
Le terme est fort quand même, un allié. Donc c'est-à-dire que
et d'ailleurs, quand la jeune garde avait été dissoute par Bruno Retailleau, à l'Assemblée nationale, ils avaient apporté un soutien bruyant à la jeune garde. Ils avaient applaudi Raphaël Arnaud. Oui, jusqu'au bout.
Et regarde là, à Strasbourg, ils investissent Yolda, s'il s'appelle, ce ce militant d'extrême gauche pour pouvoir être sur une liste municipale. Je dirais à un moment donné, c'est
Semyolas.
Semyolas, voilà. C'est quand même juste hallucinant de se dire qu'aujourd'hui, on va rechercher des militants d'extrême gauche de façon à pouvoir les mettre en avant et sous la houlette de la France insoumise.
Emmanuel Devilliers.
Oui. La France insoumise est en train d'être coincée comme dans une partie d'échecs. Une partie d'échecs à plusieurs niveaux, comme un parking. Il y a d'abord le fait que l'explosion de l'accord électoral du nouveau Front populaire affaiblit considérablement les résultats potentiels de deuxième tour de la France insoumise, évidemment au premier tour aussi, et que le nombre d'élus à des législatives va être amputé considérablement. Il ne va plus rester que les têtes de pont, dont peut-être M. Bompard, qui était très 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 bien élu la dernière fois.
Emmanuel Bompard qui sera face au GG tout à l'heure, voilà. À 11h.
Le deuxième niveau de partie d'échec où la France insoumise est coincée, c'est dans le fait de cet événement à caractère assez historique là de la mort de ce jeune que tu qualifies d'ultra droite, mais ça c'est tu cèdes à la pression médiatique et au prêt à penser.
C'est pas mon genre.
Au prêt à penser.
C'est un
militant patriote qui croyait en la France, qui affichait son catholicisme. Et depuis quand en France on n'a pas le droit de le faire? Depuis quand?
Non mais Emmanuel. Calme-toi.
Mais moi je le rejoins. Emmanuel,
non mais je ris pas du tout.
Raison, c'est vrai.
Parce qu'il y a un mort.
C'est l'unité identitaire, c'est tout.
Non mais le collectif Némésis, pardon, est un mouvement d'ultra-droite, et Quentin Némésis faisait partie de ce collectif, ou en tout cas était proche, puisqu'il était là avec eux. Voilà, de
il
dire ultra-droite.
Du service de sécurité.
Et ultra-gauche. Autant, moi.
Oui. Ses proches disaient qu'il était d'une mouvance radicale, même voilà. Si lui, il était plutôt calme. Ses proches même le disent.
Voilà. Donc, pardon. Voilà.
T'as un mort, c'est pas glorieux.
Bah non, mais Emmanuel, il faut appeler un chat. Moi, par exemple, je pense que je ne qualifie pas LFI d'extrême gauche, contrairement à ce que dit Monsieur Nunez, parce que c'est un parti qui siège à l'Assemblée, qui joue le jeu républicain. Je ne qualifie pas le RN. Je ne qualifie pas le RN d'extrême droite. Je pense que le RN, c'est la droite radicale. En revanche, effectivement, Némésis ou d'autres, ce sont des mouvements d'ultra-droite, comme la Jeune Garde est un mouvement d'ultra-gauche. Et c'est ça qui fait la distinction, d'ailleurs, avec des partis qui jouent le jeu de la démocratie, qui se présentent à des élections et qui respectent les règles du jeu. Mais sinon, ce sont des mouvements, c'est des mouvements qui, comme le disait Sandrine, pense qu'il faut régler les problèmes à coups de poing dans la rue. Bah oui, c'est quand même.
Oui, mais bon, là, Némésis, c'était cette femme.
Ce caractère de LFI coincé dans les échecs, c'est que ils vont être obligés de désavouer, puisque on entend de sources policières. Là, c'est pas du commentaire politicien ou orienté. On entend que les gens sont issus de la mouvance de la France insoumise. Les criminels qui vont être inculpés.
De la Jeune Garde.
Oui, mais c'est la France insoumise, c'est la même chose, c'était un jeu de poupées russes. Et donc, ils vont être obligés de désavouer. Donc, ils vont être obligés de se désavouer eux-mêmes, de désavouer leur base militante.
Tu crois que Jean-Luc Mélenchon sera capable de le faire?
Oui. Alors, on trouve maintenant, ils ouvrent des contre-feux, on ouvre des contre-feux absolument scandaleux, y compris sur les médias ce matin, en disant oui, attention, maintenant, il faut craindre des ripostes, parce qu'il y a quatre nazillons, chômeurs, qui sont là, essayer de faire une pancarte. Non, mais attendez, soyons sérieux. Là, il y a un mort, il y a un danger de guerre civile en France. La France insoumise monte les Français, les uns contre les autres. Alors, moi, je vais lui dire à Bompard tout à l'heure, non, pas Saran, ça ne va pas marcher, votre combine. Les Français vont se lever contre vous.
Antoine est avec nous au 32-16. Bonjour Antoine.
Oui, bonjour. Tout est excessif.
Emmanuel, vous avez constaté, il est très très énervé ce matin.
Non, mais en plus, moi, je l'adore, parce que j'adore son frère aussi. J'adore le plus du fou. Et pourtant, je vote LFI. Vous voyez, ça vous donne pas des boutons, hein, vous êtes sûr?
Vous votez LFI, Antoine. Alors justement, c'est la question qu'on pose. Est-ce que c'est pas quand même une mauvaise passe pour la France insoumise, qui a eu tort de s'associer à ce type de mouvement?
Oui. Médiatiquement, c'est un problème. Moi, je vais vous dire honnêtement, ce qui se passe aujourd'hui était prévisible. Malheureusement, c'est tombé sur Quentin, c'est tombé à droite, la prochaine fois, ça tombera à gauche. Tout le monde savait qu'à Lyon, ça allait se passer. On le savait depuis le départ, la préfecture, tout le monde est au courant. Et c'est ce pourquoi je suis en colère, c'est parce que j'ai le sentiment, sans être complotiste, qu'on a laissé faire. Tout simplement parce que ça arrange le pouvoir en place, ça arrange l'extrême-centre qui, tout d'un coup, peut dire, ben voyez, regardez, voilà, ni RN, ni LFI, nous sommes le camp du bien. Et ça, c'est dégueulasse. Voilà, alors déjà, excusez-moi, condoléances à toute la famille pour Quentin, c'est vrai que c'est hyper triste, moi j'ai un gamin qui est pas loin de son âge, je suis dingue depuis une semaine, mais honnêtement, tout le monde savait. Qu'est-ce que fout ce collectif Némésis? Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Par qui il est financé? Qui le soutient? À un moment donné, il faut poser les bonnes questions. D'accord. Alors, c'est pas la faute de Hassan, c'est pareil. Hassan, elle est arrivée après le tabassage. Donc
pourquoi? Oui, mais c'était quand même en marge de ce, c'était en marge de sa venue.
Mais si demain je vais voir un concert de Patrick Bruel, bon, hein, c'est pas des fans. Que fout le bordel là-bas? C'est la faute de Patrick Bruel.
Mais c'est pas Patrick Bruel qui provoque des troubles à l'ordre public. Pardon. Mais,
attendez, ben, est-ce qu'elle a été condamnée? Est-ce que Rima Hassan a été condamnée pour quoi que ce soit? Si elle doit être condamnée, portez plainte. Mais jusqu'à preuve du contraire, on accuse les LFI de tous les maux.
Elle est protégée par son immunité parlementaire aussi.
Antoine, Rima Hassan, quand elle a relayé sur les réseaux sociaux une publication qui était dans laquelle il y avait Némésis doit être dissoute à l'acide, oui. Qu'est-ce que vous en pensez?
Vous trouvez pas que c'est provocateur, ça? Elle l'a relayé, c'est pas un appel à la violence.
Vous m'avez posé une question, je réponds. Je trouve ça excessif. C'est clair, c'est excessif.
Bah voilà, c'est peut-être ça qu'il faut arrêter.
Voilà, c'est que ça.
Oui, mais Rima Hassan, elle est députée européenne. On ne peut pas mettre au même niveau un militant de base et une députée européenne qui a été élue, qui est protégée aussi par son immunité parlementaire et qui a une parole qui est quand même plus forte.
Très bien, vous avez un député RN qui a demandé sa tête, qui a demandé à tuer Madame.
Mais c'est pareil, ben c'est inadmissible.
Oui, mais ce que je veux dire.
Ah oui, mais enfin, c'est pas parce que si tout le monde se comporte ainsi, c'est la guerre civile.
C'est pas un député RN, c'est un assistant parlementaire, c'est pas la même chose. Et en plus,
par exemple, je vous dis juste un petit truc. Ils vous disent depuis deux jours, j'écoute toutes les interviews de toutes et même vos concurrents, et ils vous disent que si jamais il est avéré que c'est quelqu'un de la jeune garde qui a fait ça et qui pourtant est dissous, alors ils sont désolidarisants. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent de plus? Qu'ils se mettent à genoux?
Ben Raphaël Arnaud, pourquoi ont-ils investi Raphaël Arnaud?
Ouais, fiché.
Je suis d'accord avec vous aussi, mais il a bien des gens qui ont voté pour lui.
Antoine, il faut que vous montiez dans le mouvement, vous êtes beaucoup plus intelligent que les leaders actuels.
Bien sûr, mais moi je suis désolé, Mélenchon est très intelligent. Je ne suis pas d'accord avec tout, vous savez, je vais vous faire plaisir, Emmanuel. Moi, je suis un patriote français de gauche.
Ça, c'est ce que j'ai compris.
Pour la droite des valeurs. Bravo. Et pour la gauche du travail. Alors, c'est pas un discours qui tient la route parce que il passe pas dans les médias, mais voilà. Moi, je suis pour la droite des valeurs et la gauche du travail. Donc, forcément, je me retrouve chez le RN, je me retrouve chez LFI, économiquement. Mais par contre, moi, la différence entre LFI et RN, c'est que le RN, le problème, c'est l'immigration. Et chez LFI, le problème, c'est l'usure et la banque. Voilà. Moi,
merci, Antoine. Merci Antoine d'avoir appelé depuis Bordeaux. Antoine qui est grutier en Gironde. Et comme les Antoines nous écoutent beaucoup, on a un autre Antoine au 32-16. Antoine Hirs. Alors maintenant, c'est Antoine. Vous savez d'où il appelle, Antoine? Des Pays-Bas.
Ah.
Bonjour, Antoine.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes où précisément?
Juste à côté d'Harlem. Entre Harlem et Amsterdam.
Et vous vivez sur place depuis longtemps?
26 ans et je m'apprête à rentrer dans les mois qui viennent.
Ah ben oui, ça se passe bien en France, c'est calme
en
ce moment.
Oui, c'est grand bonheur. On commence à se demander si c'est le bon choix ou pas.
Alors, vu des Pays-Bas, comment vous voyez les choses?
Écoutez, moi, c'est ce que je disais à votre collègue, c'est très inquiétant. Et je ne parle pas juste uniquement de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, peu importe. Ce qui me fait très peur, je ne sais pas si vous avez lu ce livre qui est c'est le livre « Comment les démocraties meurent ». Et en fait, c'est une étude qui a été faite, c'est un petit peu fascicule de 150 pages, très facile à lire. L'idée globale, c'est que d'un point de vue historique, très ancienne ou très récente, les mêmes causes ont amené aux mêmes conséquences. C'est-à-dire une crise économique, une crise sociale et ensuite une crise identitaire qui amène à chaque fois élus des dictateurs, que ce soit de gauche ou de droite. Je suis pas du tout dans une question de gauche ou de droite. La seule chose qui me fait halluciner et c'est très alarmant parce que c'est européen, on l'a vu en Hollande aux dernières élections, c'est que les partis politiques soi-disant de gouvernement se complaisent dans cette dualité et dans cette opposition uniquement pour garder leur poste. Et c'est une catastrophe. Et on voit que les digues s'arrêtent. Moi, je l'ai vu en Hollande. Ça faisait des années et des années qu'on avait des sondages, des élections qui nous prédisaient l'extrême droite en premier. Et jusqu'aux dernières élections, il y avait j'imagine que c'est un sentiment de préservation hollandais, où l'extrême droite ne passait pas. Et on l'a vu aux dernières élections, malgré tout, c'est la première fois qu'elle passe.
Oui, oui.
et on se dirige
tout, tout ça en fait ça met au pouvoir des mouvements autoritaires, des mouvements durs. Oui, ça c'est évident, face à la chienlit en général, il y a le réflexe de voter pour ceux qui vont promettre le retour de l'ordre. Merci Antoine d'avoir appelé depuis les Pays-Bas, et puis vous pouvez revenir en France, hein. ça se passe bien quand même, heureusement. Il y a d'autres choses. Alors on a posé la question, LFI est-elle encore crédible politiquement? Non, alors la question est posée à l'inverse, c'est pratique. La France Insoumise a-t-elle perdu de la crédibilité à vos yeux? Et vous répondez oui à 87,4%. Dans un instant, le on s'en fout pas avec Anaïs Innocence.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story avec Sandrine Pégan, notre avocate ce matin, Emmanuel Devilly, l'entrepreneur, l'éducateur, Abel Boyi. On s'en fout pas, c'est maintenant.
RMC, face aux grandes gueules.
Ah non, on s'est trompé de jingle. C'est pas face aux grandes gueules, c'est le OZEP. On s'en fout, on s'en fout pas. Et face à nous, c'est donc Anaïs Innocence. Bonjour Anaïs Innocence.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Cette information RMC d'abord de Bérangère Bocquillon. L'affaire avait provoqué un tollé à la rentrée dernière. On apprend ce matin qu'aucune sanction n'a été prononcée à l'encontre de l'étudiante de la Sorbonne qui avait exclu des étudiants juifs d'un groupe Instagram. On s'en fout ou pas,
on
Abel?
On s'en fout pas.
Ma chère Sandrine.
On ne s'en fout pas.
Emmanuel.
Non plus, on s'en fout pas.
S'il y a d'autres sionistes dans ce groupe, on ne veut pas de vous ici. C'est ce qu'avait écrit l'étudiante dans ce fameux groupe aux participants qui avaient des noms ou des prénoms à consonance juive. Aucune sanction donc de l'université. La présidente de la section disciplinaire estime qu'elle n'a pas à donner d'avis sur des actes ou des propos qui se tiennent sur des groupes privés. Alors l'université a fait appel de la décision de sa propre section disciplinaire. Ça, c'est pour le volet universitaire. En revanche, côté judiciaire, l'étudiante comparaîtra tout de même demain devant le tribunal correctionnel, cette fois, et elle est accusée de harcèlement scolaire et de provocation non publique à la haine raciale. Abel.
Oui, mais ça fait partie de toutes ces personnes stupides qui pensent que tous les juifs sont sionistes, qui pensent que tous les juifs soutiennent le gouvernement israélien, alors que ça ne veut absolument rien dire, et en ne prenant pas de sanctions, c'est légitimer la manifestation de l'antisémitisme. Donc quand on pense à cette gauche bien pensante qui a la main sur le cœur et qui est championne du monde de l'humanisme, ça fait encore tache sur le CV.
Imaginons que cette femme ait écrit sur son groupe Instagram « Je ne veux pas de musulmans, je ne veux pas de noirs, je ne veux pas d'arabes ». Sincèrement, à mon avis, il n'y aurait même pas eu hésitation de la part de l'instance qui est censée sanctionner. Il y a quand même deux poids, deux mesures.
Le ministre de l'Enseignement supérieur a dit ce matin sur BFM qu'une enquête administrative allait être ouverte aussi. Emmanuel.
Blablabla. Bah, il faut tout simplement une neutralité en toutes circonstances. C'est discriminatoire. Et ça ne se justifie que par une stigmatisation, puisque ça n'a rien à voir avec un bon fonctionnement qui aurait justifié d'exclure cette personne.
Sandrine.
Heureusement que cette jeune femme sera traduite demain devant la justice. Et en effet, on ne peut qu'espérer qu'il y ait une condamnation sévère par rapport à cela, parce que c'est contraire aux valeurs de l'université.
Et une des étudiantes juives, justement, a dû quitter l'université, hein, puisque l'étudiante en cause a été maintenue, en fait, est toujours étudiante en première année. Les GG. À un mois des municipales, les candidats rivalisent d'imagination. Après Rachida Dati en éboueuse, Sarah Knafo dans le métro. Voilà Édouard Philippe au Havre qui troque le costume pour les gants de boxe. Vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. On n'arrive pas trop à la dater là, mais ça ressort. Hein. Maintenant, c'est pas anodin d'ailleurs. Édouard Philippe.
On voit la vidéo sur RMC Story, alors il faut peut-être la décrire.
On voit Édouard Philippe effectivement avec les gants de boxe et un partner justement.
Il boxe pas mal,
mais oui, mais justement. C'est son hobby, la boxe, on le sait, hein, c'est pas comme les poubelles pour Rachida Dati. A-t-il raison de se mettre en scène comme ça, mes petites GG? On s'en fout ou pas, tiens?
Non, on s'en fout pas du tout.
On s'en fout,
Sandrine,
pas, on s'en
Abel. Fout
pas. Sandrine, elle aime bien ça, Édouard Philippe qui boxe.
Ah bon?
Alors, pas du tout. Déjà, ah bon, alors, moi, j'oublie pas Édouard Philippe quand justement il a malheureusement mal géré la colère sociale, hein, avec les gilets jaunes. Donc non, là, de le voir comme ça, moi, je trouve que c'est scandaleux aujourd'hui.
De quoi? De faire la boxe?
Mais non. mais de se mettre en scène comme ça. Mm-hmm. Je sais pas, moi je rêve encore d'un ancien temps où on présentait une candidature avec un vrai programme, et là on essaye de se mettre en scène. Alors c'est à celui qui aura le meilleur slogan, qui aura le meilleur décor.
C'est de la com. Bah,
quand Nicolas Sarkozy il aimait bien se montrer en train de faire un jogging. Il arrivait, il montait les marches de l'Élysée, le perron de l'Élysée, avec son t-shirt tout transpirant,
c'est
après faire un jogging.
Des combattants.
C'est vrai qu'avant on les
Sauf
voyait
que
pas.
La mise en scène, elle ne remplace.
Mais on a vu Giscard faire du ski, enfin, ou jouer au foot aussi, c'est pas. C'est...
Alors c'est de la com, mais ouais. La mise en scène ne remplace pas le contenu.
Bien
Alors
sûr.
Dans ces cas-là, on peut reparler de Mélenchon avec ses hologrammes aussi.
Mais peut-être que Édouard Philippe envoie un message. Il s'apprête à boxer ses adversaires à la présidentielle.
Oh, moi, j'en ai marre de ces politiques qui sont atteints de dysmorphophobie inversée, c'est-à-dire qui se voient certainement comme Rocky, l'œil du tigre, alors qu'il a le charisme de Pikachu, en fait. Donc voilà, je pense que ce n'est pas du tout productif.
Mais oui.
Moi, je m'inscris en faux. Je trouve que sur la vidéo, il est très athlétique.
C'est un vrai boxeur. Hein.
C'est quelqu'un qui est grand. Il a un certain âge. Il est très tonique. Non, je pense qu'il devrait adopter un slogan pour capitaliser là-dessus. Voter pour le Cassius Clay de Seine-Maritime.
Et tu crois que du coup, c'est grâce à sa condition physique qu'il va pouvoir gérer une ville? C'est ça?
Non,
c'est...
Ah, ça joue. Bah, ça joue. Et beaucoup d'élus. Des winners en matière électorale m'ont souvent dit, tu sais, quand on est en campagne, c'est dur, on se lève le matin, on est déjà très fatigué et on a le sentiment de monter sur le ring.
Comme Poutine dans ces cas-là, alors.
Bon, allez, on enchaîne.
Les GG, près d'un salarié sur trois en France a eu une relation sentimentale ou sexuelle au travail.
Ouh là là là.
On s'en fout ou pas, Emmanuel?
Oui, ça relève de la vie privée, je m'en fous.
Ah bah non, c'est une relation cachée ou.
Ah bah oui.
Ah non, ah non, officiel.
L'adultère.
C'est l'adultère.
Ah non, pas.
Ah oui, parce qu'on peut rencontrer sa femme au boulot.
Oui, mais non, on parle pas d'adultère.
Ah, d'accord.
Non, mais pardon, avoir des relations sexuelles sur le lieu de travail.
C'est monsieur qui demandait si c'était caché ou non.
Dans les toilettes, quoi, en fait.
Bah, je sais pas.
Dans les couloirs.
On sait rien, il y a pas que ça. Il y a des salles de réunion.
Il y a des open space partout maintenant.
Mais ça porte bien son nom, d'ailleurs. Du coup.
Bon, Sandrine, tu t'en fous ou pas?
Je m'en fous, oui, je m'en fous.
Bon, pareil, je m'en fous.
Vous êtes nul. Olivier, tu t'en fous pas, j'en suis sûr.
Ouais, je suis obligé de pas m'en foutre.
Et tu te relayais par magazine hypocrites. Business Insider. Ça vous est déjà arrivé, ça? Au moins, peut-être un crush au
chez
travail.
Les avocats.
Moi, j'ai un crush sur Olivier, je lui ai jamais dit.
Oh, dis-le.
Elle sera réinvitée dès demain.
Ah, ça y va.
C'est pour ça que je lui ai fait un petit compliment
sur
sa petite coupe ce matin.
N'arrête pas, n'arrête pas, t'as vu, elle m'a fait un petit cadeau.
J'ai même pas son numéro de téléphone, arrêtez.
Il en demande d'autres. Il est devenu addict aux compliments. Surtout les tiens.
Pardon, mais est-ce que c'est choquant? Il y a toujours eu des relations, parfois, soit extra-conjugales, où tu rencontres l'amour au bureau. Tu peux rencontrer ta future femme, ton futur mari.
Il y a à peu près 30% des couples qui se sont rencontrés justement sur leur lieu de travail.
Pardon, bah normal, la relation sexuelle, comme on fait maintenant avec le développement du télétravail.
Ah bah là,
c'est
non,
fini tout
fait,
ça.
Et bah la relation sexuelle virtuelle.
Bah oui, c'est ça, chacun bosse chez soi, donc c'est uniquement par, par voilà. Zoom. C'est une relation par Zoom.
Après, ce qui peut se passer, c'est que les employeurs ont la possibilité aussi, mais là vraiment, il faut que ce soit encadré juridiquement, de pouvoir licencier leurs employés parce qu'ils ont eu une relation sexuelle sur le lieu de travail.
Ah bon, parce qu'on
n'a pas le droit. Dans certaines entreprises, c'est déjà arrivé.
C'est un motif de licenciement.
Et ça a été validé par le Conseil des Prud'hommes.
Est-ce que c'est gênant?
C'est pour ça que je dis qu'il faut que ce soit très encadré juridiquement. Est-ce que il faut que ça ait un impact aussi sur la qualité du travail, ce genre de choses.
Deux collègues dans la vie et dans le même boulot, est-ce que c'est vraiment gênant?
Ben, quand ils se séparent, oui.
Non, mais d'accord, mais voilà.
Quand tu t'es disputé
boulot,
la veille et que le matin, tu dois te taper sa gueule enfarinée.
Est-ce qu'ils sont dans le même service ou pas? Mais est-ce que c'est vraiment
c'est l'expérience qui parle, là, c'est
non, ça? Non,
ça
ne pas. Hein.
Non, pardon, je ne sors pas avec mes clients.
Non, mais attends, je ne savais pas qu'avoir une relation sexuelle au travail, oui, parce que tu es censé travailler. Donc,
oui, c'est ça.
C'est là.
Si c'est un impact, c'est pour ça que je le dis, il faut que ce soit vraiment
justifié. Faire ça pendant ta pause cigarette.
Pendant la pause déjeuner, ouais.
La pause déjeuner. Et combien tu. C'est quoi la stat?
La stat, c'est un salarié sur trois.
T'as connu ça dans les entreprises que tu as dirigées, Emmanuel de Villiers?
Oui, oui, j'ai connu des situations assez hautes en couleur.
Ah bon?
Oui, j'en ai deux qui me reviennent. Dans une entreprise que je venais de racheter, j'ai découvert ensuite, on m'a expliqué, mais c'était vraiment pire qu'un secret d'État, que mon prédécesseur qui venait de me vendre l'entreprise avait eu une enfant naturelle avec un salarié. Ah. Alors ça compliquait évidemment les relations parce que la personne était en quelque sorte intouchable. Et puis également au Futuroscope, j'ai eu une vicissitude un soir, un groupe d'anglais avec une jeune fille qui était extrêmement courte vêtue, comme parfois le sont les anglais, c'est-à-dire vraiment... une jupe très 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 courte, et il y a un employé de nettoyage que j'aimais bien, avec qui j'avais des relations très très cordiales, qui dans les WC au lavabo lui a mis passé la main aux fesses.
Ça s'appelle un abus sexuel, ça.
Et il y a eu ensuite tout un ramdam avec la gendarmerie. On a été boycotté par le tour opérateur. Enfin, on n'arrivait pas à éteindre la colère de.
Bah ça c'est normal.
Clients.
Ça c'est normal.
Oui, enfin, c'est normal là.
C'est
une agression sexuelle.
Oui, mais en même temps, la jeune fille avait quand même une tenue un peu provocante.
Non, celui qui a mis la main aux fesses à la
licencié.
Ah, ben j'espère.
Bon, ben voilà. Mais merci Anaïs Innocence pour cette petite statistique. Marseille, bébé, on arrive jeudi. Les GG débarquent à Marseille. Première étape de notre petite tournée municipale. Nous irons ensuite à Lyon le 24 février, donc la semaine suivante. Et nous terminerons à Nice. Donc Marseille, c'est jeudi.
Avec Abel.
C'est ouvert au public. Abel Boyi, tu connais Marseille ?
Ah oui, ben j'y suis deux à trois fois par mois.
Bon, Sandrine, toi, tu es marseillaise.
Eh oui, mais bon, donc, je ne pourrais pas en être.
Alors, Marseille, ça sera au Palais de la Bourse.
Ouais.
C'est vraiment au cœur de la ville, 9 rue de la Canebière. C'est ouvert au public. Pour vous inscrire, c'est très simple. Vous envoyez un mail à public@rmc.fr. Public@rmc.fr. Passez par cette adresse mail parce que les places sont limitées. C'est plus simple pour nous pour gérer. Et on se donne rendez-vous donc à Marseille jeudi dès 9h avec vos GG. Dans un instant, faut-il suspendre immédiatement le permis de conduire lorsqu'on est pris avec le téléphone au volant? De plus en plus d'automobilistes téléphonent au volant, envoient des SMS, consultent leur messagerie ou autre chose.
Regardez,
c'est très dangereux, ça provoque des accidents. Faut-il taper du poing sur la table? Il y a un préfet, enfin il y a deux préfets maintenant qui ont décidé de suspendre le permis de conduire. Est-ce qu'il faudrait généraliser cette mesure? On en parle avec vous tout de suite au 32-16. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.